quelque 49 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes en France pour le premier tour des élections municipales. C'était dimanche, un scrutin marqué par une forte abstention entre 41 et 44% et une nette percée des extrêmes, que ce soit de gauche ou de droite. Pour en parler, ce matin, on reçoit Elliot Maman, journaliste et chroniqueur politique. Il était hier soir au micro de Jonathan Serrero.
Elliot Maman, bonsoir.
Bonsoir.
J'ai une première question tout de suite. Comment expliquer le fort taux d'abstention lors de ces élections municipales? Est-ce un désintérêt pour la politique de la part des Français ou un rejet de la classe politique?
Peut-être un peu des deux à la fois. Il faut dire aussi qu'en l'occurrence, il a été assez compliqué d'intéresser véritablement les Français et peut-être plus largement les personnes qui sont en charge de traiter des élections municipales au sujet même qui est supposé faire la véritable substance de ce type de scrutin, puisqu'on a vu par exemple qu'au cours des semaines qui ont précédé le scrutin, en réalité, les médias n'ont pas véritablement eu l'occasion de parler des sujets du quotidien, vous savez, les sujets du coin de la rue, comme ils sont parfois surnommés, mais plutôt au contraire de sujets qui très manifestement dépassent largement les prérogatives que l'on va attribuer et sur lesquelles on va attendre d'une administration locale qu'elle se positionne. Puisque naturellement, un certain nombre de débats, par exemple, consacrés supposément aux élections municipales, ont été annulés par les chaînes d'information, notamment supposées les diffuser au profit de l'actualité internationale. Par rapport aux débats qui ont eu lieu s'agissant de ces élections municipales, les candidats ont bien souvent été sommés de se positionner, notamment sur la question du Proche-Orient, alors que, a priori, il y a quand même des enjeux extrêmement différents par rapport à ce que l'on va attendre de la part d'une municipalité et d'un pouvoir municipal ce qui se passe sur le front diplomatique. Donc il y a peut-être eu un peu des deux. C'est en effet, de manière générale, on le voit, des Français qui ont l'impression que les politiques n'ont plus véritablement de prise sur leur vie, et donc des élus qui sont parfois déconnectés de leur réalité, mais également des réalités qui précisément n'ont pas toujours semblé alignées sur ce qui fait l'essence même d'une élection telle que celle-là.
Elliot, vous nous dites que l'actualité au Proche-Orient, donc ici en Israël, mais aussi dans la région, a eu une sorte d'impact sur la tenue de ces élections, sur l'envie des électeurs à aller se rendre vers les urnes. Et plus largement, est-ce que l'actualité au Proche-Orient a eu un impact sur, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, les bons résultats de la LFI, de la France Insoumise?
Alors c'est en effet une question qu'on peut se poser, d'autant qu'on a vu que pour la France Insoumise, il s'est agi ces dernières semaines d'insister sur ce point-là, d'insister d'ailleurs de manière commune avec leur volonté de manière plus générale d'avoir une véritable conflictualisation de la vie politique. Il est vrai par exemple que dans un certain nombre de grandes villes, ou dans un certain nombre de municipalités où la France Insoumise a fait d'excellents résultats au cours de ce premier tour, on peut notamment penser à Saint-Denis, on a vu que au-delà même de la question du Proche-Orient, d'Israël, il y avait eu une véritable mise en avant d'une rhétorique extrêmement conflictuelle par la France Insoumise. Je mentionne Saint-Denis parce que, par exemple, Bali Bagayoko est allé jusqu'à s'opposer juridiquement avec son candidat opposant dans cette course à l'élection municipale, ce qui, de toute évidence, au-delà même de la question du Proche-Orient, n'est pas véritablement la volonté de mettre à plat une stratégie de campagne extrêmement douce et dans la bien-entente la plus acceptable qui soit en démocratie. Donc on peut tout de même se poser la question, dans quelle mesure est-ce que, au-delà du sujet du Proche-Orient, il y a également eu une espèce d'hypertrophie des clivages politiques qui a profité à la France insoumise et qui traduit également un rejet, comme vous le sous-entendiez d'ailleurs dans votre question précédente, de mécanismes de débat politique classiques par les Français.
Les médias en France ont souligné les succès des candidats de la France insoumise à Roubaix, à Lille ou à Saint-Denis, vous en avez fait mention. Mais est-ce que ce succès n'est pas à tempérer si on grossit la loupe des résultats au niveau national?
Alors, oui et non, parce qu'en réalité, il faut voir deux choses. D'abord, La France insoumise n'a pas présenté, vous savez, il y a environ 35 000 communes en France, n'a de loin pas présenté de candidats, de listes dans l'intégralité de ces communes. Elle s'est principalement concentrée sur les grandes villes, c'est-à-dire qu'on commence à véritablement retrouver des propositions de la France insoumise dans les villes à partir de 20 000 habitants, beaucoup plus dans les villes à partir de 50 000 habitants, et on a vu d'importants succès dans quelques villes de plus de 100 000 habitants, c'est-à-dire dans véritablement ce qui représente les grandes villes françaises. Si on regarde en valeur absolue, si on grossit, si vous voulez, les résultats à l'échelle nationale, on voit que la France insoumise a obtenu environ 14 points, ce qui est quand même quelque chose de beaucoup plus important que ce que la France insoumise réalisait aux élections municipales de 2020. Beaucoup plus important, en tout cas en 2020. Si on regarde l'intégralité des listes où se trouvaient des membres de la France insoumise, ils étaient plutôt à 12 points. Là, comme je le disais, ils sont à 14 points. On peut se dire que c'est une progression, donc en fait, pas aussi importante que ce que la loupe médiatique retranscrit. Pour autant, il y a eu, dans ces élections municipales de 2026, un nombre important de cas où les autres partis de gauche, précisément, ont estimé qu'ils ne pouvaient pas faire alliance avec la France insoumise. Donc, en 2020, quand la France insoumise opérait 12 points, c'était en ayant des listes où, dans un nombre extrêmement important de cas, ils n'étaient pas les seuls. En 2026, lorsqu'ils progressent, certes légèrement, mais lorsqu'ils progressent tout de même, c'est dans un nombre extrêmement important de cas, en proposant des listes où ils sont absolument les seuls à se présenter. Donc, en effet, ce n'est pas un raz-de-marée électoral, mais ça reste tout de même assez significatif, surtout au vu du comportement du reste de la gauche.
Alors, à Paris, le candidat socialiste Emmanuel Grégoire est arrivé en tête. À droite, Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel, le candidat Horizon, devraient faire cause commune au second tour. En tous les cas, c'est ce qui s'annonce. En revanche, pour le moment, il refuse de collaborer avec Sarah Knafo du parti Reconquête. Sans alliance, vous pensez que la droite perdra cette élection à Paris?
Alors, je n'en ai aucune idée. C'est vrai que les sondages sont assez pessimistes et les reports de voix que l'on peut s'amuser à faire montrent tout de même que Emmanuel Grégoire est arrivé plus haut que certaines enquêtes d'opinion au cours de la campagne. Donc, dès lors, c'est d'autant plus compliqué de parvenir à le contrer au second tour, alors même que, comme vous le disiez, les alliances électorales sont un peu incertaines. Ce qui est intéressant, simplement, dans le cas de Rachida Dati et Sarah Knafo, c'est qu'on a véritablement un cas où il y a une porosité assez claire entre les électorats de Sarah Knafo et de Rachida Dati. Pour le démontrer, il suffit de voir les arrondissements, pardonnez-moi, dans lesquels Sarah Knafo a réalisé ses meilleurs scores, qui sont traditionnellement les terres où les Républicains, donc la formation dont Rachida Dati est issue, réalisent là aussi leurs meilleurs scores. Donc, on peut se dire que, en réalité, il est assez contradictoire au vu de l'envie des électorats en question que Rachida Dati refuse catégoriquement toute alliance, toute proposition de liste commune avec Sarah Knafo. Dans le même temps, par rapport à la question de la proximité entre Rachida Dati et ses électeurs, et on se demande bien souvent si les responsables politiques échouent parfois à avoir une véritable proximité avec leur position de leur électorat, il y a aussi une question d'honnêteté, puisque Rachida Dati a fait l'intégralité de sa campagne en garantissant que jamais elle n'accepterait la moindre main tendue de la part de Sarah Knafo, et on voit par ailleurs que les cadre ou ancien cadre des Républicains qui gravitent autour de Sarah Knafo. On a encore vu une interview de Jean-François Copé à cet égard ce matin, explique qu'il ne faut surtout pas accepter d'alliance avec Sarah Knafo. Donc finalement, on peut se demander à terme où se trouve l'honnêteté. On comprendrait pourquoi et quelles seraient les envies des électeurs si Rachida Dati acceptait la main tendue de Sarah Knafo, mais dans le même temps, elle a fait ses scores aussi au premier tour en faisant toute une campagne en disant jamais, jamais, au grand jamais, je n'accepterai une alliance avec Sarah Knafo.
Deux dernières questions, Elliot. Est-ce que ces résultats de cette campagne, de ces élections municipales, en tous les cas pour ce premier tour, sonnent comme un indicateur pour la présidentielle de l'année prochaine ou pas du tout?
Je pense que cela nous indique une chose que les élections législatives de 2024 avaient déjà révélée, c'est que les Français sont extrêmement divisés. Vous savez, Jérôme Fourquet, un sociologue il y a une dizaine d'années, avait sorti un livre dont l'expression, dont le titre s'était popularisé en politique, puisqu'il avait parlé d'archipel français. Là, on n'est même plus véritablement dans l'archipel, puisqu'on voit bien qu'en réalité, il n'y a plus grand-chose qui réussisse encore à tenir à tenir ensemble. Les Français n'ont même plus des intérêts de groupes sectoriels qui sont opposés, les Français n'ont plus aucun langage commun. À la suite des élections législatives de 2024, on avait vu qu'il y avait un morcellement des forces à l'Assemblée nationale. 11 groupes parlementaires en présence, c'était un record. Là, on voit qu'il y a véritablement, je crois qu'il y a une municipalité en France où on se retrouve avec 14 listes qui ont réussi à se maintenir. Non, c'est plus ou moins possible, mais en tout cas, avec un nombre extrêmement important de listes qui ont réussi à se maintenir pour le second tour. Donc véritablement, il n'y a plus de langage commun. La classe politique n'est plus en mesure de trouver une espèce de point commun dans de territoire commun dans les propositions qu'elles formulent aux Français, et eux-mêmes ne voient plus du tout la cohérence qu'il y a entre leurs aspirations politiques respectives.
Pensez-vous que le discours antisémite et antisioniste d'une certaine partie de la gauche est porteur en France aujourd'hui, au regard des résultats?
Bah, alors on peut en effet se demander dans quelle mesure il est porteur en tant que tel, et on peut aussi remarquez que les discours dits extrêmement disruptifs à l'égard de ce qui est perçu parfois comme un ordre établi a aussi une espèce d'appel, pas nécessairement auprès de populations qui sont par essence antisémites, mais par exemple, on a rappelé que la France insoumise avait beaucoup manié la question notamment des relations diplomatiques avec un certain nombre de pays du Proche-Orient. Il est assez saisissant de voir l'écho que peut retrouver, que peut représenter la France insoumise, notamment dans un certain nombre de populations étudiantes, puisque précisément, je ne pense pas qu'il y ait une majorité d'étudiants en France qui aujourd'hui soient antisémites. Par contre, il y a probablement une majorité d'étudiants en France qui a l'impression que réussir à dénoncer la domination d'intérêts américains et donc avec eux la domination d'ambitions diplomatiques israéliennes dans la région, c'est faire preuve d'un courage absolument extraordinaire et la France insoumise peut en tirer profit. Donc c'est plutôt sur cette dimension-là que je vois qu'il y a éventuellement un véritable jeu à réussir à prendre, mais pas nécessairement par rapport à une véritable passion antisémite qui se saisirait de la population française à l'heure actuelle.
C'est important de le souligner, Elliot Maman. Je vous remercie d'avoir répondu à
Merci
nos
à vous.
questions.